Bienvenue à l'église au cœur de la ville. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment à l'écoute de ce message.
De quoi allons-nous parler ce matin? Le titre, c'est « Pleinement comblé ». Alors, est-ce qu'on va parler de nos besoins, de vos besoins? Est-ce qu'on va parler de richesse, d'argent? Je vais quand même faire attention, c'est mon premier culte, donc si je parle de prospérité, je risque de me faire rattraper au vol. Je vous avoue que ça n'a pas été simple. En fait, quand je prépare un message à la jeunesse, généralement, je me mets devant Dieu un peu pendant quelques semaines où je dis à Dieu, dépose quelque chose sur mon cœur. Le thème vient assez rapidement. Et dès que je me mets devant l'ordinateur, généralement, une soirée ou deux, ça sort, c'est fluide. J'envoie ça à Xavier, c'est validé ou corrigé, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Et quand Xavier m'a proposé avec insistance de faire un dimanche, je me suis dit, bon, de toute façon, je le fais à la jeunesse, le thème viendra de la même façon, je vois pas, c'est le même Dieu, donc il n'y a pas de raison. Et là, je me suis mis à prier une semaine, deux semaines, trois semaines, rien. Je me suis dit, mince, je me mets à lire de façon un peu plus intéresser la Bible en cherchant un thème. Je me mets à écouter aussi des prédications sur Internet. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va me parler pour l'église et tout. Ah, rien. Puis les jours avancent. Le stress, moi je suis un gars stressé, donc ça monte avec. Et du coup, j'ai une habitude sur mon téléphone. En fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me parle ou que ça résonne particulièrement, une prédication, un verset, un chant même, je mets tout sur une note, sur mon iPhone, et je note. Puis je dis, je sais pas, ça servira peut-être plus tard, ou Dieu m'amènera peut-être à revenir dessus, un verset, etc. Donc je note. Et donc là, tic, je vais lire mes notes. Je regarde mes notes, et là, toujours rien. Il y avait absolument rien. C'était frustrant, stressant. Et m'est revenu un moment qu'on a passé dans le jeûne de prière, où Dieu a déposé quelque chose de particulier sur mon cœur. Au début, je pensais que c'était pour la jeunesse. J'en ai un peu parlé autour d'un McDo, parce que c'est un peu notre lieu de réunion avec la jeunesse. Et du coup, Dieu m'a ramené sur ce terrain-là. Donc, on va regarder ça ce matin. En intro, tout ce qu'on se dit là, je me le dis surtout à moi. En fait, j'ai repris cette prédication encore hier soir et franchement, elle me concerne, moi. Alors, je le partage avec vous, mais elle me concerne vraiment, moi. On va lire deux versets dans Philippiens 4, verset 19. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. » Et un petit peu plus loin, verset 19, on lit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. » Honnêtement, je trouve qu'on est plutôt des champions du verset à la volée. C'est-à-dire qu'on a un verset pour toutes les situations. Moi, depuis que je suis petit, alors c'est peut-être que dans les ADD, j'en sais rien. Mais on a tous des versets clés qu'on balance à chaque situation. Le gars, il est en deuil, on a le verset sur le deuil. Le gars, il a péché, tac, on a le verset sur le péché. Il est dans la maladie, je vais lui envoyer un verset dans Job. Et en fait, on a un paquet de versets, comme ça, à la volée. Et moi, la plupart de ces versets, ils me font du bien un jour ou deux jours. Et puis en fait, ils me culpabilisent tout le reste du temps, parce que j'ai l'impression de ne pas les vivre. J'ai des besoins, que ce soit des besoins matériels, que ce soit des besoins physiques, financiers, professionnels, spirituels, sexuels. La liste est extrêmement longue et je vous garantis que quand je m'approche de Dieu, je sais lui faire la liste de tout ce que j'ai, en tout cas pense avoir besoin. Je lis, je prends ce verset-là et puis je me dis, tiens, c'est quand même bizarre parce que j'ai beau mettre ça devant Dieu et c'est pas ce que je vis. J'ai pas la réponse à ces besoins-là. Et on a vite le réflexe de dire, mais mince, qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi je vis pas ce qui est écrit dans la Bible? La Bible est la vérité, et pourtant, c'est pas quelque chose de concret dans ma vie. Et si vous avez la question ce matin, ou en tout cas la réponse de pourquoi ça ne se passe pas, vous pouvez le dire, comme ça on stoppe la prédication, et on termine, il est pas encore 11h. Bon, personne lève la main. Mes besoins. Il y a quelques secondes, je viens d'énumérer une liste de besoins et je me suis concentré sur cette liste en pensant à les prières que je fais les trois quarts du temps. Et en les regardant et en recheckant mes prières, je me suis rendu compte, alors je ne vais pas faire de généralité, mais que la plupart des choses que j'appelle besoin pourraient s'appeler autrement, genre convoitise. Alors c'est pas, encore une fois, pas une généralité, mais je suis pas sûr que tout ce que j'ai demandé à Dieu, j'en ai réellement besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un nouveau job? Est-ce que j'ai besoin de plus d'argent? Est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle maison? Est-ce que j'ai besoin d'amour? En fait, je vais être honnête, la plupart du temps, ce qui me pousse à aller vers Dieu, c'est plus mes besoins que ma reconnaissance. Le thème de l'année, à la jeunesse, je ne sais pas si je vous l'avais partagé, en tout cas pas tout le monde, c'est l'équilibre. Pourquoi j'ai choisi ce thème? J'écoute pas mal de choses sur Internet, honnêtement, il y a de bonnes choses, il y en a de moins bonnes. Je regarde un petit peu autour de moi, il y a eu quelques histoires, si vous suivez un peu les milieux chrétiens avec Marty Sampson et d'autres. En fait, on voit de plus en plus de gens, je trouve en tout cas, déséquilibrés. On entend de plus en plus parler d'évangile de prospérité. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un évangile frelaté, en fait avec une mauvaise interprétation sur la manière dont Dieu veut répondre à vos besoins. Et on fait l'amalgame bien souvent entre besoin et convoitise. Alors on va quand même parler des besoins, on va lire quelques versets ensemble. Dans Matthieu 6, verset 25, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Amen. Il est fait ici mention de ce qu'on pourrait appeler les besoins primaires, primordiaux. Se nourrir, se vêtir, se loger, s'abriter. C'est un peu l'indispensable de nos besoins et on pourrait vite, après la lecture de ce verset-là, de se dire « Oui, mais bon, ok, manger, nourrir, s'abriter, c'est bien, mais c'est pas que ça la vie. Et j'ai pas besoin que de ça. » Ici, Jésus, quand même, moi, ce qui m'a un peu travaillé, enfin beaucoup même, c'est que la manière dont Jésus aborde ces sujets-là, chez nous, ils sont prioritaires. Moi, avoir un logement, c'est prioritaire. Pouvoir habiller, nourrir mes enfants, c'est prioritaire. Et Jésus ne comprend même pas que ça soit quelque chose qui nous inquiète. Il le balaye en disant « Mais regardez autour de vous, regardez la nature, j'ai pensé aux plantes, j'ai pensé à nourrir les oiseaux et puis je vous aurais oublié. » On va lire un autre verset. « Il délivre le pauvre de sa misère. Il rend les familles aussi nombreuses que des troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, tandis que toute injustice est réduite au silence. » Que celui qui est sage observe cela et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Dieu ne s'intéresse pas uniquement à se nourrir, se vêtir, s'abriter. Il est en train d'aborder la justice, la famille, le problème d'argent. Et il y aurait encore beaucoup de versets qui prendraient en compte un peu l'ensemble de nos besoins de nos vies. Mais j'ai trouvé un verset qui résume plutôt bien ça. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toute chose avec lui? Cette question, elle me reprend. En fait, c'est en train de me dire, mais j'ai pensé à un plan parfait pour sauver ta vie et j'aurais oublié que tu as besoin de manger, j'aurais oublié que tu as besoin de te vêtir, que tu as besoin d'un job, que tu as besoin d'un conjoint. Et en fait, suis-je un Dieu qui pense à l'essentiel puis oublie tout le reste, alors que c'est l'inverse, Dieu pourvoit même dans les détails. Alors, je ne vous ai pas encore dit ce que Dieu avait déposé sur mon cœur pendant ce jeûne avec Franck. Franck a demandé qu'on puisse prendre un moment ou faire silence C'était par rapport au projet de l'Église, le futur de l'Église. Il a demandé de faire un temps de silence et laisser Dieu nous parler. Honnêtement, j'étais pas extra motivé. Mais bon, j'ai fait silence, je sais faire. Et en fait, au bout de quelques minutes, il y a une phrase qui m'est revenue, en fait, qui a tourné dans mon esprit, dans ma tête. Et c'était tellement pressant que c'était comme si je la voyais s'écrire devant moi. Alors, c'était pas le cas, mais c'était, je pense que vous avez déjà eu cette sensation d'une parole qui vous presse. Et en fait, ça disait, pourquoi me demandez-vous de m'occuper de ce qui a trait à vos vies, vos soucis financiers, votre logement, votre santé? Ne m'avez-vous pas confié vos vies? Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Moi, ça m'a d'abord parlé à moi, c'est pour ça que j'en ai pas parlé quand on faisait le jeûne, parce que je suis un gars stressé, j'ai besoin que tout soit sous contrôle, je remets mes problèmes à Dieu, j'ai des séances professionnelles qui arrivent et tout, et j'essaye de tout tenir. Et je me dis, en fin de compte, je me suis baptisé il y a quelques années, il y a quelques mois, il y en a, ce sera dans quelques mois. Et on fait tous cette conversion-là, on donne notre vie à Jésus, amen, alléluia, on lui confie nos vies, et puis on sort de la porte et on commence à vouloir regérer certaines parties de notre vie. Comme si ce qu'on avait donné, on se l'aurait approprié. En tout cas, on dit à Dieu, je suis pas sûr que tu gères tout, donc cette partie-là, je vais quand même m'en occuper. Et moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que malheureusement, bien souvent, je prends plus de temps dans la prière quand je suis en galère que quand tout va bien. C'est malheureusement un reflet de mon attitude. Je pense que la prière est un bon miroir de ce qu'il y a dans mon cœur. Et je me suis posé la question, est-ce que je vais prier Dieu quand j'ai des besoins, quand j'ai des difficultés, quand j'ai de la reconnaissance, ou simplement quand j'ai envie de faire grandir ma relation avec lui? Je vous laisse répondre. Moi, j'ai mis une réponse là-dessus. On va lire dans Luc. Il y aura un peu de versets aujourd'hui, hein. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. On passe tellement de temps à s'occuper de nos besoins. Alors, je dis pas qu'il faut d'un seul coup se mettre à vivre dans la rue, attendre que tout nous tombe tout cuit dans la bouche. C'est pas ce que je dis. Là, je parle de priorité. Qu'est-ce qui prend la place dans mes pensées, dans mon cœur? Qu'est-ce qui en est prioritaire? Moi, dans le boulot, quand quelque chose est prioritaire, un dossier, je prends du temps, je me coupe pour le traiter, j'essaye d'être concentré, j'essaye d'être attentif, et je vous garantis que c'est quelque chose qui prend de la place dans mon agenda. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas traiter les autres dossiers. J'ai un job, je dois tout traiter. Par contre, il y a certaines choses que je vais traiter vite fait. Je vais faire l'essentiel, juste la réponse à apporter. Et les dossiers prioritaires, je vais y prendre du temps. Et si je regarde ma manière dont je gère ma vie avec Dieu, il y a une application qui est pas mal sur ceux qui ont des iPhones. J'ai un petit onglet qui me dit tous les jours mon temps d'écran. Mon temps d'écran. En préparant la prédication, je me suis dit, tiens, je vais regarder ma moyenne sur la semaine pour voir combien de temps je passe par jour devant cet écran. Je ne vous donnerai pas la réponse. Non, pour être authentique, puisque c'est le thème aussi avec les jeunes, 3h10. Et je ne suis pas 3h10 aux toilettes. Donc, je passe beaucoup trop de temps sur cet écran. Et si d'un seul coup je compare ces 3 heures au temps que j'ai passé avec, devant Dieu, ou voilà, la comparaison elle est compliquée, quoi. Et on retrouve ça dans cette parabole. On a un gars, il a pensé à tout. La taille de sa ferme, la taille de ses greniers, comment stocker ses récoltes, comment faire en sorte qu'elles ne se périment pas, la tenir pour plusieurs années. Et une fois qu'il pense avoir tout maîtrisé, ce, en tout cas pour lui, était prioritaire dans sa vie, à ce moment-là même, Dieu lui dit, mais ton âme te sera redemandée, et c'est quelque chose auquel il n'a pas prêté attention, c'est quelque chose auquel il n'a pas donné du temps. Dans la suite du verset, Dieu nous parle de priorité. Donc, dans Matthieu 6,31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, De quoi serons-nous vêtus ? Donc c'est la suite de tout à l'heure. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Combien de fois j'ai balancé ce verset ? J'ai eu une discussion avec un jeune là, il y a pas très longtemps. J'ai dit, mais cherche premièrement le royaume de Dieu et tu verras, ça va aller, tout ça, etc. Et puis on a tous dans nos églises un vocabulaire. On est capable de parler du sang de l'agneau qui purifie nos péchés. Je me mets à la place de quelqu'un qui vient de rentrer. Le sang de l'agneau qui purifie nos péchés, le mec, on va le choquer. Et quand je reprends ce verset, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Et si j'ai quelqu'un qui un jour me pose la question, et ça consiste en quoi ? Bah, d'un seul coup, j'ai pas la réponse, quoi. Est-ce que c'est de venir plus souvent à l'église ? Pourquoi royaume, justice ? Enfin, honnêtement, d'un seul coup, je me suis dit, mais j'utilise ce verset depuis que je suis gamin, et en fait, j'en comprends pas forcément la signification. Alors, action, réaction, je me suis dit, bah, je vais chercher le royaume de Dieu et sa justice. Alors, je cherche. C'est pas sur mon GPS, c'est pas sur Google Maps. Je cherche dans ma Bible. Et en fait, plus j'en apprends sur le royaume de Dieu, plus je m'aperçois qu'il y a un roi dans ce royaume qui est Dieu. Et comme dans tout royaume, il y a des lois. Il y a une constitution, il y a quelque chose qui régit ce royaume. Et d'un seul coup, le lien avec la justice commence à se faire. Et je lis le verset suivant. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Ma recherche du royaume de Dieu et de sa justice, elle m'amène là. À réaliser que je n'ai pas accès au royaume, que je suis pécheur, que je le veuille ou non, quand je balance ce conseil-là, en tout cas cette recherche-là m'amène à réaliser ce que je suis et mon incapacité à rentrer dans le royaume de Dieu. Et je sais que ça va parler à la jeunesse, mais j'essaye de leur tabasser ça pendant les réunions. Ce n'est pas ce que je fais qui va m'amener à rentrer dans le royaume, mais c'est ce que Jésus a fait. Lisons dans Jean 14. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et maintenant, reprenons un verset qu'on a lu tout à l'heure. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Nos besoins, notre richesse ne se trouve pas dans le coffre-fort de notre banque, ni dans notre maison, ni dans notre voiture, ni dans notre famille, ni dans nos enfants, ni dans ma femme, aussi merveilleuse soit-elle. Nos besoins, nos réels besoins sont spirituels. Vous voyez le risque de prendre un verset à la volée, de le sortir du contexte, de le balancer dans une situation, c'est qu'on n'en comprend pas toujours le sens. Et plus j'avance avec Dieu, plus je me rends compte que la Bible explique la Bible et que la Bible est équilibrée. Le déséquilibre ne vient pas de la Bible, mais du fait qu'on en prend un bout et qu'on en oublie un bout. Deuxième partie, la réponse aux besoins du monde. Ah, on est bientôt à la veille de Noël, c'est d'ailleurs le culte de Noël, vous avez vu, les jeunes se sont habillés classe ce matin, ils sont beaux gosses, ça change. Et pourtant, ce qui est central aujourd'hui, ce qui est central même dans notre calendrier, tous les jours, Jésus-Christ, le n'est pas forcément dans notre vie. On est tous chrétiens, on aime tous Jésus, on sait tous qu'il est mort pour nous, mais quand on commence à mettre ça dans la pratique, ça devient un petit peu plus vague. Honnêtement, si vous saviez combien de fois, en étant jeune et même encore maintenant, j'entends des messages qui parlent de mes problèmes, de mes besoins, puis à coup de verset, essayent de vous faire comprendre que si vous n'avez pas la réponse à vos besoins, à vos questions, à vos prières, c'est que vous avez un problème. Dieu a vaincu le monde, donc je devrais être vainqueur. Si Dieu a vaincu, je suis aussi vainqueur. puis bim, quelques jours après, vous prenez une gifle, vous tombez, vous êtes dans le péché, vous vous dites, mais c'est pas possible, enfin, Dieu a vaincu, je le vis pas, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'ai une crainte quand j'ai pris le groupe de jeunes, c'était de dire, mais je veux pas qu'ils rentrent dans ce schéma-là. Je veux pas qu'ils pensent que c'est par rapport aux efforts qu'ils vont faire. Dieu a fait sa part, maintenant c'est à toi de faire la tienne. C'est pas le schéma, c'est pas ce que je lis dans la Bible. Une petite parenthèse. Je vous ai dit que j'écoutais pas mal de choses sur Internet et qu'il y a des bonnes choses et qu'il y en a de moins bonnes. Et de plus en plus, je me mets des filtres pour savoir si c'est biblique, si ça ne l'est pas. Et un de mes premiers filtres, qui est plutôt efficace, je me dis que si la prédication que j'entends reste vraie, même si Jésus n'était pas mort sur la croix, c'est que c'est pas biblique. Quelque chose qui resterait vrai sans la croix, c'est du coaching. C'est pas biblique, quoi. Et un verset qui appuie un petit peu ça, car en lui, Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Xavier vient de finir une série sur la plénitude et il a insisté sur un point qui, moi, est en train de changer beaucoup de choses. Il y a plein de versets que je lis que je comprends pas, plein de situations par lesquelles je passe que j'ai pas forcément compris, même des attitudes que j'ai moi et où j'ai des incompréhensions. Et Xavier a appuyé sur l'union de Christ en moi et de moi en Christ. Et je crois honnêtement que c'est une clé de folie par rapport à la compréhension de qui est Dieu, du sacrifice de la croix, de ce que ça. La plupart des versets disent, quand on comprend que c'est Christ en moi et moi en Christ, c'est quelque chose en tout cas qui, moi, me travaille beaucoup en ce moment. On va être honnête, si ce matin j'avais posé la question de quels sont vos référents, vos héros dans la Bible, je suis sûr que j'aurais le droit à des réponses du style, parce que moi j'aurais répondu ça. David, extraordinaire quand même, un adultère et un meurtrier. Samson, un coureur de jupons. Bon, Abraham, un menteur qui fait passer sa femme pour sa sœur. Jacob, un usurpateur, quelqu'un qui l'a dit mieux que moi. Moïse, un colérique. L'apôtre Paul, c'est plutôt pas mal quand même, qui se définit lui comme le plus grand des pécheurs. Et la liste, elle est longue, mais extrêmement longue. Et vous savez, c'est quoi le point commun à tous ces hommes? C'est qu'ils sont tous pécheurs. Et qu'ils ont tous besoin de la grâce de Dieu. On entend des prédications, surtout au niveau des jeunes, où soit un David, soit un héros. Et puis on motive les jeunes à focaliser leur regard sur la vie d'un homme, alors que la seule chose qu'ils devraient regarder, en tout cas la vie de ces hommes, si vous prenez David, si vous prenez Moïse, si vous prenez Abraham, elle mène tous à regarder vers Dieu et à mettre en avant, peu importe l'homme qu'il était, leurs incapacités à réussir. On voit tous qu'ils avaient des travers, des péchés. Et combien de fois on voit des jeunes découragés à la sortie des rassemblements parce que on les a boostés, on leur a mis de l'adrénaline là sous perfusion là, pendant 2 heures. Et puis ils sortent, ils se prennent tous pour des héros. Et puis le lundi matin, les premières gifles arrivent. Et puis à la fin de la semaine, vous les récupérez à la réunion de jeunes. Et il n'y a personne qui prie, il n'y a plus personne qui loue. Et tu te dis, mais mince, ils sont passés où les héros? Tout ça parce qu'en fait on a pas remis Jésus au centre des choses et qu'on, encore une fois, on lit la Bible de travers, quoi. On a tendance à penser que la grâce se trouve inutile, et en tout cas elle commence dans le Nouveau Testament. Alors on va lire un passage ensemble. Le même jour, 2 disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à 12 de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus même s'approcha d'eux et les accompagna. Donc là, on parle des disciples d'Emmaüs après la crucifixion de Jésus. Mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'y est passé ces jours-ci » Il parle quand même au principal concerné. « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance devant Dieu et devant tout le peuple. Nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas trouvé son corps et sont venues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il est vivant. Donc ça change pas, on croit toujours autant aux femmes. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau pour vérifier. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit « Ah, homme sans intelligence !» J'ai mis stupide parce que j'aurais préféré d'être traité de stupide que sans intelligence. Que stupide, à l'occasion, vous utilisez mal votre intelligence. Et quand vous n'en avez pas, bah vous n'en avez pas. Vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Christ ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire? Alors, commençant par les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes ses écritures. Jésus est en train de leur expliquer que ça n'a pas démarré à l'an zéro et que toute la Bible fait mention de Jésus. De l'Ancien Testament jusqu'à maintenant, tout est focus sur Jésus, sur son œuvre, sur ce qu'il va, ce qu'il a accompli. La veille de Noël, si vous voulez savoir de quoi vous avez besoin, c'est simplement de Jésus. Voilà le message qu'on devrait véhiculer à Noël. On se casse tous la tête en ce moment à essayer de trouver des cadeaux. Honnêtement, j'avais mon père, je devais trouver un cadeau pour mon père, je n'ai toujours pas trouvé, hein. J'en ai un peu serré. Mais on fait des enquêtes, on questionne l'entourage, etc. On essaye de répondre aux besoins des gens, alors que les gens n'ont besoin en réalité que d'une seule chose, de plus de Jésus. Plus de Jésus. Il faut que je diminue pour qu'il croisse. Lisons encore un verset. Jean 14. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les mêmes œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour la gloire du Père, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On revient sur cette union du Christ en nous. Je vais vous raconter un truc encore. J'ai fait pas mal de colos chrétiennes en Bretagne, dans un centre évangélique, là, sur le home évangélique, ça s'appelait. Et on avait un pasteur, quand il prêchait et qu'il faisait un appel, on avait une crainte, c'était d'aller à l'appel. Parce que ce gars-là, quand il priait, et quand vous vous approchiez, il posait les mains sur vous et il finissait chaque phrase par « Au nom de Jésus !» avec un mouvement de l'avant-bras à vous péter la nuque. Et franchement, on était tous là en disant « Mais on y va !» et ça faisait vraiment ça, quoi, comme ça. Ce qu'il est dit là dans Jean, c'est pas une formule magique. Moi, j'ai repris aussi, je me suis amusé à essayer de m'écouter prier. Combien de fois j'utilise le nom de Jésus comme si c'était la clé « Au nom de Jésus !» Amen. J'ai prié pour mes filles qui étaient malades et puis à la fin je disais au nom de Jésus. Et hop, le tilt avec ma prédication revenait. Et je me dis, j'utilise le nom de Jésus sans réaliser la puissance qu'il y a derrière, sans réaliser l'union dont on a parlé il y a quelques semaines de Christ en moi et de ce que je demande au Père. En fait, c'est pas moi de le demander, c'est au nom de Jésus que je vais demander certaines choses au Père. Éphésiens 8:9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Et Hébreux 12:2. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Xavier sur la plénitude de la foi, mais c'est quelque chose que j'avais pas conscience. À chaque fois que j'ai pas une réponse à une prière, que je me mets à prier pour mes enfants malades et que je termine par au nom de Jésus puis que je vois qu'ils sont encore malades, je me dis, ben, j'ai pas la foi, quoi. J'ai pas la foi. C'est pas, c'est moi qui ai un problème, c'est pas possible. Je mets pas ma foi en action. Et même au niveau de la foi, Xavier en a parlé et ses versets le rappellent, ça vient pas de moi. En fait, c'est pas moi qui vais faire grandir ma foi, c'est pas moi qui vais faire naître même la foi. En fait, tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Je suis 100% dépendant de ce que Dieu veut faire dans ma vie. Et d'où l'importance de cette union en Christ, parce que je suis dépendant de Christ. Si j'enlève Christ, tout ça n'a aucune valeur, n'avance. Et puis, il se passera rien dans ma vie. Quoi. Une église que je suis de temps en temps a un slogan qui me travaille aussi, sans doute, c'est Tatrage. Tout a toujours rapport avec Jésus. Et le diable, et le thème de l'église, c'est de montrer, de développer, comme le fait Xavier ces dernières années, de tout pointe sur Jésus. Tout a rapport avec Jésus. Tout est en relation avec Jésus. C'est pour ça, quand je vous dis que si j'entends une prédication et que j'enlève ce que Jésus a fait à la croix, et que ça reste vrai, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas biblique, quoi, ça. C'est du coaching. Par contre, attention à l'effet pervers qu'on a beaucoup dans nos mouvements, en tout cas que j'ai connu ça dans nos églises. On a tendance à mettre Jésus partout, même là où il n'est pas. Je vais prendre deux exemples. Le premier, Rahab, la prostituée qui va accrocher un cordon rouge dans Josué. Et vous allez entendre des prédications qui vont vous parler, qui vont faire un lien entre la couleur du cordon et le sang de Jésus. Je vous rassure, si le cordon est rouge, c'est uniquement parce que le rouge, ça se voit de loin. C'est tout, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Un deuxième texte, dans Chronique, David prépara aussi une grande quantité de fer destiné à la fabrication des clous. Et là, je dis clous, hein, qui ont pensé croix. Rien à voir. Et si vous me demandez pourquoi il est parlé de clous ici, bah pour bâtir un temple, il faut des planches, et pour fixer des planches, il faut des clous. Ça s'arrête là. Et remettre Jésus au centre de l'écriture, c'est pas commencer à faire des amalgames de partout, mais c'est réaliser que Christ tout entier est dans l'écriture tout entière. Et c'est bien de voir les choses de façon globale, d'essayer d'élargir notre champ de vision quand on regarde un verset, quand on s'arrête sur un texte en disant « mais il faut que j'écarte, il faut que je voie la globalité ». Parce que ce qui est dit là est sûrement expliqué, il y a sûrement un rappel ailleurs. Et je sais qu'il y a des Bibles qui sont bien faites avec ça, qui font des mentions justement de quand vous prenez un verset, où est-ce qu'il est aussi nommé, ou auquel ça fait référence. Je vais conclure. C'est Noël dans quelques jours. Et notre société essaie de vous promettre qu'elle a de quoi répondre à vos besoins. Vous regardez les pubs télé, vous regardez tout ce qui se dit en ce moment, et on va vous faire croire qu'on peut, Noël va vous rendre heureux, en tout cas, on a quelque chose pour les gens autour de vous qui pourrait le rendre heureux. C'est pas ça le message de Noël. Rien de ce qu'on trouvera, rien de ce qu'on gagnera, rien de ce qu'il y a malheureusement sur cette terre ne nous rendra heureux et répondra à nos besoins. Je vais citer quelqu'un que vous connaissez quasiment tous. Blaise Pascal. Tous les hommes recherchent le bonheur. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toute action, de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. En train de dire que là, même les gars qui, au final, veulent mettre une fin à la vie, c'est dans une recherche de bonheur. Recherche de paix, d'arrêter cette souffrance dans laquelle ils sont. Qu'est-ce que donc qui nous crie cette avidité et cette impuissance? Sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace, toute vie, et qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas par des présents, mais qui en sont tout incapables. Parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire par Dieu même. On a parlé de la plénitude depuis quelques semaines, et je crois que notre bonheur, en tout cas, ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est d'être en lui, d'avoir cette plénitude en nous, et elle n'est possible qu'au travers de Christ. Je vous l'ai dit, on n'a pas accès au royaume tout seul, on n'a pas accès à Dieu tout seul par nos œuvres, par le temps qu'on y passerait. On a accès à cela uniquement en Jésus-Christ. Alors il faut vraiment que ce matin, mon stress, le vôtre aussi, diminue, que les soucis du quotidien arrêtent de prendre cette place, que l'avenir de nos enfants, notre avenir professionnel, que toutes ces préoccupations en fait, arrête de prendre la place que le Christ devrait avoir dans nos vies. J'ai cette phrase, moi, en ce moment, qui me revient, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que je diminue pour qu'il croisse. Et c'est ce que, sur cette année 2020, en tout cas, j'ai envie de passer du temps, j'ai envie de passer du temps à diminuer, de lui laisser plus la place, de vraiment faire l'engagement que j'ai fait en me baptisant, de lui donner ma vie entière, complète. Et je vais terminer par un verset, juste pour vous encourager, pour vous dire que Dieu s'occupe de vous. Dans Psaume 139, versets 16 à 17. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Merci Seigneur parce que il a pensé à tout et il n'a rien oublié. Rien oublié, aucun de nos besoins, aucun de ce qui pourrait remplir nos vies n'a été oublié. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu as fait, Seigneur, sur la croix. Merci pour cette vie, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu es celui en qui, Seigneur, nous avons tout pleinement, Seigneur. Tu es celui qui veut remplir nos vies, combler pleinement nos vies, Seigneur, mon Dieu. Et je te prie ce matin que tu puisses prendre plus de place dans ma vie, Seigneur, que tu puisses avoir cette priorité, Seigneur, que ce vide que je ne peux combler par moi-même ni par ce qui m'environne, Seigneur, puisse être rempli par toi et par toi seul, Seigneur. Alors merci de ce que tu as déposé dans mon cœur, Seigneur, merci de ce que tu feras dans cette nouvelle année qui arrive, Seigneur, merci pour cette année passée, merci pour 2019, pour ces vies qui se sont données à toi, Seigneur, pour tous ces progrès qui auraient pu être faits, Seigneur, que tu puisses continuer ton œuvre, Seigneur, parmi ton peuple, Seigneur. Amen.